Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Je n'ai pas gagné les élections législatives, mais vous non plus. Je n'ai pas gagné les élections législatives, mais je les ai quand même gagnées un peu plus que vous. Alors, ne venez pas m'ennuyer. Je n'ai pas dit emmerder. Le verbe trivial que le président de la République avait destiné en son temps aux non-vaccinés. Vous l'aurez compris, le message présidentiel était clair. Hier, je garde le contrôle et c'est à vous de me dire comment vous voulez vous soumettre. Vous préférez en une fois, type coalition, ou vous préférez au coup par coup, avec des votes à chaque texte? Il est fort, ce président. Il prend son risque, comme on dit au poker. Il finasse, il ruse, il le louvoie. Il dit des choses qu'il sait impossibles. Il propose le baiser qui tue. Et maintenant, que va-t-il faire? Rien. Pardi, on attend. On joue la montre. Elisabeth Borne est là. Le gouvernement est là. Le président est là. Tout va très bien. Avec un peu de chance, on aura oublié qu'il y a eu des élections législatives dimanche. Une gifle? Quelle gifle? De quoi me parlez-vous? Tout va très bien, vous dis-je. Circulez! Il n'y a rien à voir. Il est 9h, Audrey Berthaud.
La ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, sera la candidate de la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale mardi prochain. Réélue députée des Yvelines dimanche, elle est bien partie pour succéder à Richard Ferrand. Ce serait une première en France qu'une femme accède à la fonction de présidente de l'Assemblée. Pour tous les candidats malheureux de Parcoursup, la phase complémentaire débute aujourd'hui. Les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux s'ils n'ont pas encore trouvé de formation correspondant à leur recherche. Enfin, journée importante pour l'Ukraine. Le destin du pays se joue à Bruxelles où les 27 vont se pencher aujourd'hui sur sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. Une étape hautement symbolique près de 4 mois après son invasion par l'armée russe.
Gérard Leclerc est avec nous ce matin. Bonjour également à Georges Fenech. Bonjour à Philippe Guibert. Et puis bonjour à Julien Odoul, qui est député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national.
Bonjour.
Bernard-Henri Lévy était là tout à l'heure. Il a repris un peu ce qu'il avait écrit dans sa chronique du Point. La catastrophe, c'est la multiplication par 10 des députés Rassemblement national. C'est la poussée de la France rance. C'est la victoire de la France qui n'aime pas la France. Vous êtes la France rance ?
Monsieur Bernard-Henri Lévy a toujours un problème avec la démocratie, avec le peuple. Voilà, les députés du Rassemblement national ont été élus par le peuple souverain dans 89 circonscriptions à la suite d'élections légales, il faut lui rappeler.
Voilà. Non, mais c'est pas, il ne le conteste pas, il dit que c'est la France-France.
Oui, non, mais c'est une insulte à l'endroit de millions de Français.
Il y a eu des millions de Français. Il y a parfois une mauvaise France, ça a existé dans le passé.
Qui ne pensent pas comme M. Bernard-Henri Lévy. Oui. Voilà, qui ne veulent pas beaucoup plus d'immigration, qui ne veulent pas accueillir toute la misère du monde, qui ne veulent pas avoir... l'humanisme mondialiste en bandoulière.
Vous voulez qu'on l'écoute? Il était avec Laurent Serra il y a une seconde.
Pour commencer la journée, c'est toujours bien.
Écoutons.
Ah oui, c'est un signal clair et surtout très inquiétant. Oui, ce sont les deux visages de la France rance, de la France qui n'aime pas la France, qui ne s'aime pas elle-même, qui tourne le dos à ce qu'elle a de grand. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, il y a 10-20 ans, voir un jour ça. C'est-à-dire ces deux blocs extrêmes et qui sont à bien des égards jumeaux.
La France rance.
Je regardais la définition de rance qui a pris une odeur forte. Donc c'est des électeurs qui puent. Nous dit Monsieur Bernard-Henri Lévy, je le dis un peu familièrement, ça fait 30 ans qu'il se trompe sur ce point. C'est-à-dire que de vouloir traiter les électeurs de rance, de racistes, de je ne sais quoi, le beau succès que ça a rencontré, cette diabolisation, pas simplement du parti ou des responsables, mais des électeurs eux-mêmes, en les désignant comme des affreux. Tout ça nous conduit à avoir un Rassemblement national qui est au deuxième tour à 42%.
Je suis pas sûr que ce soit les deux choses soient liées, mais je pense que si
en 64, ça a pas empêché,
en 74, dans une période où la France allait bien, où il y avait le plein emploi, où la crise n'existait pas, je crois que Jean-Marie Le Pen avait fait 0,74%. Donc peut-être que cette France-là comme, a émergé parce qu'il y a des problèmes sociaux, parce qu'il y a des problèmes économiques, parce qu'il y a des problèmes politiques, etc. etc. La France-France, Gérard ?
Moi, je n'emploierais pas ce genre d'expression, mais je ne suis pas comme Bernard-Henri Lévy, un philosophe, etc. Non, je n'emploierais pas cette expression.
Ouais, c'est pas...
Ce qui m'intéresse... Oui. Je trouve qu'il ne faut jamais... Là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Pierre Roudoul, il ne faut jamais insulter les électeurs.
Vous c'est avez... pas insulter.
France, ce n'est pas très aimable.
C'est péjoratif,
France,
c'est condescendant peut-être.
C'est pas très insultant.
C'est pas très aimable.
C'est plus... Oui, c'est mais pas très aimable. Bon, cela dit, il a le droit d'avoir cette... Voilà, de refuser, de rejeter, d'être en désaccord total avec les idées du Rassemblement national. Ça, il a le droit. Ce qui est intéressant aussi, c'est la dernière phrase qu'il dit, où il met un peu en parallèle, il dit c'est un peu, d'ailleurs, les deux extrêmes se rejoignent.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai, à mon avis, mais ce qui est intéressant...
C'est pas tout à fait vrai, mais c'est une...
Pourquoi je trouve que Bernard...
C'est un élément d'analyse.
Voilà. Pourquoi on a voulu commencer par ça? C'est parce qu'en fait, il est porte-drapeau aussi d'un certain espace médiatique, Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que les intellectuels... Une bonne partie des journalistes, disons-le, les artistes pensent précisément que les gens qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est la France-France. Et c'est pour ça que c'est intéressant.
Oui, oui.
Y a cette couleur-là. Georges Fenech, et puis après on écoute le président de la République.
Non, je crois que Bernard-Henri Lévy est resté sur une idée que nous partagions beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque du Front national. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est autre chose. C'est issu, certes, du Front National, mais c'est autre chose. Et je n'aime pas personnellement, alors pas du tout, les insultes vis-à-vis de 42% des électeurs qui sont quand même prononcés pour Marine Le Pen au premier
tour. Oui, 42%.
Nous sommes au deuxième tour. Donc bien je pense qu'il faut combattre les idées.
Alors,
on peut ne pas être d'accord sur un grand nombre d'idées, notamment votre retraite à 60 ans, etc., qui n'est pas viable. Mais ce n'est pas en vous insultant qu'on rendra service à la
d'ailleurs,
démocratie.
D'ailleurs, ce n'est pas tant insulté que
si,
méprisé.
Si, France, c'est insulte.
Méprisé.
D'ailleurs, c'est un parti.
Au fond, c'est,
quoi.
Je vais vous dire, si vous voulez même affiner encore, c'est un mépris de classe.
Oui, bien sûr.
Mais ça fait 40 ans que ça...
C'est un mépris de classe.
Bien sûr.
Ça fait 40 ans. Nous, on est des intellectuels et vous êtes des imbéciles.
Eh ben, restons imbéciles, chacun à sa place. Non,
bon, vous êtes des manants.
En attendant, les manants, ils ont pris le pouvoir.
Et moi, en plus, vraiment, on a souvent reçu Bernard Lévy et vraiment, c'est intéressant, évidemment, de l'écouter sur beaucoup de sujets. Mais il y a ce côté, vous ne savez pas et moi, je sais. Alors, je voulais vous faire écouter Emmanuel Macron. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs. C'est sur le projet hier. Bon, vous allez bien écouter ce qu'il dit sur le projet. Il dit, voilà, il y a une cohérence avec le projet, vous avez voté, on va essayer de travailler ensemble, mais il faut qu'il y ait une cohérence avec le projet. Écoutez bien ce qu'il dit, et écoutez peut-être, je vous donne un indice, écoutez ce qu'il ne dit pas. De quoi ne parle-t-il pas ?
Ça va être facile d'écouter ce qu'il ne dit pas.
Écoutez le président de la République hier soir.
Je souhaite donc dans les prochaines semaines que ce dépassement politique se poursuive avec clarté, et responsabilité. D'abord la clarté. Cela veut dire ne jamais perdre la cohérence du projet que vous avez choisi en avril dernier. C'est un projet d'indépendance pour notre pays, la France, et dans notre Europe que nous devons rendre plus forte, qui passe par une défense forte et ambitieuse, une recherche d'excellence, une industrie et une agriculture plus puissantes par des investissements d'avenir. Un projet de progrès sociaux, en particulier pour notre école et notre santé qu'il faut refonder, sur lesquelles nous devons réinvestir, un projet de progrès écologique par une planification et des investissements assumés, un projet de sécurité et de justice, mais aussi un projet responsable, c'est-à-dire crédible et financé.
Donc indépendance, donc défense, donc industrie, donc agriculture, donc progrès social, donc école, donc santé, donc progrès écologique, donc sécurité, donc justice.
Oui, j'ai bien compris. Je vois où vous voulez en venir.
Où je veux en venir ?
Le mot retraite.
Il n'y a pas le mot retraite. Hier soir, il a enterré la mère de ce qu'il avait dit. Il a enterré le mot retraite hier soir.
On verra.
La retraite, c'est fini. Boum. Non, mais il l'a enterré. Mais
en tout cas, vous allez la reprendre, je l'ai repéré tout de suite. Effectivement, il n'y a pas les retraites. Je ne sais pas.
Donc, c'était la mère des batailles.
Ça allait jusqu'à dire que c'est définitivement enterré, parce que, à mon avis, le problème existe.
Non.
Et qu'il va bien falloir le traiter à un moment ou à un autre.
Il est enterré.
Vous avez tout à fait raison.
Il est enterré ce matin. Donc, moi, ça m'amuse, parce que, comment dire, c'était la mère des batailles présidentielles. C'était la grande loi qui devait arriver.
Circuler. Il n'y a rien à voir. La retraite, c'est fini.
C'est d'autant plus étonnant que c'était un point d'accord avec LR, puisque le programme de LR était favorable à cette réforme de retraite, cher Georges.
Je réitère ce que j'ai dit lundi dernier sur ce même plateau, c'est-à-dire que le président de la République a perdu le pouvoir. Il est Frank-Olivier Steinmeier. Vous connaissez Frank-Olivier Steinmeier, vous le connaissez.
Président allemand.
Le président allemand. Il est Sergio Mattarella, vous connaissez.
Mais je vous en prie,
Pascal.
Oui, mais je vous écoute.
Ne le prenez pas de cette façon-là. Je vous assure, j'ai la conviction que le président de la République,
oui,
qui est profondément républicain, oui, et attaché aux institutions, va devoir tirer les conséquences. Mais les conséquences politiques réelles. Le pouvoir, contrairement à ce que dit Zemmour, qui est un brillant intellectuel, mais qui n'a rien compris en politique... Le pouvoir, c'est... Non, là, parce qu'il est en train de nous dire depuis hier que le pouvoir est toujours à l'Élysée. Non, le pouvoir est à l'Assemblée. Le pouvoir, mon cher Pascal, il est à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, je vais vous dire mieux, je pense qu'il y a une majorité pour gouverner. Elle existe, cette majorité. Et le président de la République, à un certain moment...
Les LR reviennent en force. Les LR ont compris. Il y a un os à gratter pour les LR.
Les LR ont la majorité.
Aller à la soupe.
C'est pas du tout ça.
Les LR ont un os à gratter.
Vous avez en face de vous peut-être des personnes qui aiment la France et qui se soucient de la France.
Attends, tout le monde aime la France.
Alors arrêtez de me dire la soupe. Ou ceci, ça n'a rien à voir. Moi, je ne fais plus de politique, d'ailleurs. Vous savez.
Mon raisonnement,
c'est que vous êtes passé d'un groupe politique qui avait quand même 304 députés en marche. Aujourd'hui, ils sont 150. Ils ont divisé par deux.
La majorité est à 245.
Attendez. Ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, je pense qu'à un moment, et ce moment va venir très rapidement, il va falloir laisser le pouvoir à l'Assemblée nationale et choisir un Premier ministre qui soit en capacité, par son profil, de rassembler et qui soit issu évidemment de LR. Alors vous allez dire, je vais à la soupe. Mais c'est évident.
Entre LR et LR,
le monde magique de
Jean-Pierre,
le Premier ministre, ça va
être... Pascal, je termine par là. J'entends vos ricanements, mais je termine par là. Si vous ricanez.
J'entends, Gérard.
Regardez, qui vient de prendre la présidence du groupe parlementaire Renaissance?
Oui.
C'est Aurore Berger.
Oui.
Qui était Aurore Berger? Moi, je l'ai connue. Elle était à l'UMP.
Qui est président
du groupe aujourd'hui Horizon? Édouard Philippe. Bah, qui était Édouard Philippe? Il était UMP.
Il est dans le canot. Il est dans le canot de sauvetage. Il y est, le Georges.
Vous pouvez le prendre de cette façon-là. Il n'y aura pas d'autre solution pour gouverner, il n'y aura pas de cas par cas, ça n'existe pas.
Georges Fenech,
si vous n'êtes pas une majorité stable, vous ne pouvez pas gouverner.
Il y a deux tendances au LR, on l'a bien compris, il y a la vôtre. Nadine Morano n'est pas sur cette tendance. Olivier Marleix n'est absolument pas sur cette tendance.
Mais je suis sur la même ligne.
Dites pas que vous êtes sur la même ligne.
Mais bien sûr que si. Vous avez.
Alors en revanche, écoutons.
Non, mais c'est terrible.
Ah ben non, mais vous n'êtes pas parlé pendant un quart d'heure.
Mais vous me disqualifiez.
Mais non.
Je vous dis que cette assemblée, elle est ingouvernable.
Ah oui.
Il va bien falloir en sortir.
Alors, d'abord, c'est votre analyse.
Oui.
Bon. Mais Michel Debré, le père de la Constitution, pensait l'exact contraire de vous.
permettez-moi de vous le dire.
Pas du tout.
Bah si.
Pas du tout.
Bah, et,
je vous rappelle qu'il y a eu des cohabitations sous Mitterrand et sous Chirac.
Je peux terminer. C'est-à-dire qu'il avait créé précisément la Ve République parce qu'il pensait qu'il n'y aurait jamais de majorité absolue. Donc, le pouvoir restait à l'Élysée avec du 49-3, il devait bloquer, etc. Alors, écoutons d'ailleurs ce que Cyril Dujour qui disait hier.
Le président de la République français, il est aujourd'hui un peu ce qu'est la reine d'Angleterre.
Voilà. Vous citez les cohabitations, mais le problème des cohabitations, c'est que vous aviez une majorité.
Vous êtes pas sérieux. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Si vous dites que le président de la République a le même pouvoir que la reine d'Angleterre, vous n'êtes pas sérieux.
Arbitre des institutions et chef d'État et chef des armées. Voilà. Le reste, le pouvoir, il est à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Une petite différence avec les cohabitations, c'est que les cohabitations, vous aviez une majorité à l'Assemblée.
Là, évidemment,
il faut la reproposer, cette majorité. Comment, à partir de LR,
si vous la
Alors, est-ce qu'on peut écouter juste, parce qu'on va l'écouter un peu en avance, je le dis pour Marine Lançon, Éric Zemmour était hier avec Christine Kelly, c'était très intéressant d'ailleurs, et on écoutera tout à l'heure quelques passages. Mais il trouve, lui, qu'au contraire, c'est très gouvernable. Il a une analyse complètement différente de la vôtre. Peut-être avez-vous raison, peut-être a-t-il raison, et c'est l'usage qui va nous dire. Vous dites que le président de la République n'a plus de pouvoir.
Non.
C'est possible. Je pense que vous dites les choses telles que vous voudriez qu'elles soient.
Non, c'est un constat.
Vous voudriez... Voilà,
il n'a pas de majorité pour gouverner.
Bon, vous dites ça.
Reconstituer une majorité.
Alors, écoutons.
Ou alors on dissout l'Assemblée nationale.
Et dissous, c'est pas cher. Et dissous, c'est pas cher. Je voudrais qu'on écoute. Non, Éric Zemmour. Il est 9h14. Éric Zemmour sur le ingouvernable, crise de régime.
En vérité, on dit crise de régime. On dit crise de régime, crise politique, parce que le gouvernement et Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue. C'est vrai que c'est inédit depuis l'instauration du quinquennat et le renversement du calendrier. Là, pour la première fois depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, les Français n'ont pas donné une majorité absolue. Mais ils ont quand même donné une majorité au groupe qui soutient Emmanuel Macron. Et personne d'autre, aucun autre opposant, n'a la majorité. Ni la NUPES, le groupe autour de LFI, ni le Rassemblement National. Deuxièmement, il faut que tout le monde comprenne bien que cette situation sans majorité absolue est justement ce qu'a prévu le père de la Constitution, Michel Debré. Il n'y a pas de crise de régime. Au contraire, cette situation a été prévue à l'origine par les constituants et par le père de la Constitution, Michel Debré, avec évidemment le général de Gaulle. Tout ça est conçu. Donc, comprenez bien ce que je dis. La situation est nouvelle, la situation est inédite, mais on revient à l'origine de la Ve République. En tout cas, les institutions sont faites pour cette situation.
Est-ce que vous savez, sous la Ve République, quand il y a eu une majorité absolue pour la première fois à l'Assemblée nationale ?
62.
Le suffrage universel.
67. Oui, 67 oui. Avec l'UNR.
Mais
après la dissolution.
À chaque fois que le président n'a pas eu sa majorité absolue, il s'est retiré ou il a fait une cohabitation. C'est impossible. Ce que dit Éric Zemmour est impossible.
C'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Audrey Berthaud. Audrey Berthaud.
25 départements placés en vigilance orange aux orages dans le nord-est du pays. Une nouvelle salve d'orages violents est attendue à la mi-journée sur le centre-est et qui va se propager vers le nord-est dans l'après-midi. Une écrivaine menacée sur Internet depuis qu'un extrait de son roman est tombé au bac de français. Jour de colère, c'est le nom du roman de Sylvie Germain. Des milliers d'élèves de première se déchaînent contre elle sur les réseaux sociaux parce qu'ils jugent son texte trop difficile à analyser. Enfin, Zinedine Zidane fête ses 50 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale. Dans cet entretien, le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France.
Je parlerai de Sylvie Germain tout à l'heure. Je trouve ça tellement incroyable. Sylvie Germain, qui est donc, c'est un extrait du roman Jour de colère. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Et qui est harcelée sur les réseaux sociaux par des jeunes gens qui ont trouvé... l'épreuve trop difficile. Quoi. On en est là aujourd'hui. Ben oui, vous dites c'est terrible, mais bon,
c'est une catastrophe.
Ben, c'est une catastrophe.
On est un pays littéraire de tradition.
Mais c'est de votre faute. Qu'est-ce que vous voulez dire
En quoi c'est de ma faute
Mais c'est de votre faute.
En quoi c'est de ma faute
Parce que c'est vos amis, voilà, depuis 40 ans, qui ont mis la France là où elle est. Je peux pas vous dire autre chose. Parce que c'est vrai, vous le savez bien.
C'est pas vous avez un gouverne depuis 40 ans.
Vous avez refusé.
La droite a gouverné pendant 20 ans.
On emmène 95% d'une génération au bac. Mais comment dire aux gens que c'est idiot ?
pensez que tout le monde est capable de suivre des études? Tu peux être très intelligent et ne pas suivre des études. Ça, c'est autre chose. Tu peux être très intelligent et ne pas être doué.
En quoi c'est mes amis qui sont...
Mais quel est l'intérêt? Avant, tu allais en cinquième, tu faisais de l'apprentissage si tu ne pouvais pas suivre des études et c'était très bien.
Il faut revenir à ça. Il faut revenir au fait de faire sortir les gamins.
Je pense qu'il faut leur donner un job, oui. Il faut trouver les gosses de 12, 13 ans, 14 ans qui ne peuvent pas suivre des études, il faut leur donner un job.
Les pays qui ont le plus progressé, qui viennent de plus loin et qui ont le plus progressé le plus vite, comme la Corée, sont des pays où vous avez 90% des élèves qui sont au niveau du bac. Et deuxièmement, l'ancien système dont vous parlez, le problème, c'est que l'apprentissage, ceux qui partaient dès l'âge de 12 ans en apprentissage, c'était toujours les classes populaires. Moi, je n'ai jamais connu un enfant de bourgeois qui partait faire de la apprentissage à l'âge de 12 ans.
Eh ben oui, mon frère. Aujourd'hui, on forme des gens et ils n'ont pas de job. Donc, c'est beaucoup mieux. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord donc, avec Éric Zemmour, vous l'avez dit.
Il a raison. Mais il a évidemment raison. Mais c'est la bonne analyse.
Il répond.
Ce qu'on appelle en technique juridique constitutionnelle le parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire le 49-3, le vote bloqué, toutes les garanties
démocratiques.
Et c'est pas la question.
Le 43, c'est antidémocratique.
Mais Georges, c'est pas la question.
Il faut pas en abuser.
C'est pas ça, sauf que c'est ce que justement Debré avait prévu. C'est pour ça que le raisonnement de Zemmour, il y a une petite faille là-dessus. C'est que c'était possible tant qu'il y avait le 49-3. C'est ce qu'a fait Rocard qui l'utilisait.
Vous l'utilisez qu'une seule fois par session.
Maintenant, on peut plus l'utiliser.
Vous pouvez pas gouverner avec le 49-3.
Voilà, là-dessus, Georges a raison.
En dehors du budget, attention, c'est important. Le budget, vous pouvez le faire passer au 49-3. Et vous avez droit à un texte supplémentaire
satisfaisant, vous. Mais faire passer les lois au 49-3. C'est-à-dire de s'asseoir sur l'Assemblée nationale.
Julien Audoul est avec nous.
Ce qu'ont voulu les Français.
C'est la Constitution. C'était la Constitution de Debré.
C'est celle que Gérald de Gaulle a appliquée. Il s'est retiré lorsqu'il a perdu la majorité.
Alors vous voudriez quoi que le président de la République se retire?
Mitterrand et Chirac se sont retirés du pouvoir en conservant leurs activités, leurs prérogatives
présidentielles. Mitterrand s'est retiré du pouvoir.
Bien sûr. Il a laissé.
Il y avait une cohabitation.
Il n'a même pas signé les ordonnances, le 14 juillet. Et Jacques Chirac est resté.
Chirac qui dirigeait la France.
Mais il n'a même pas signé les ordonances.
Mais ça, c'est un point de détail.
Vous avez raison,
c'est Chirac de 86 à 88 qui a dirigé la France.
On n'est pas en période de
cohabitation. C'est Jospin qui a dirigé la France. Mais Chirac.
Vous avez une majorité à l'Assemblée.
Mais on y est en cohabitation. Et elle existe, cette majorité.
On est en période de rééquilibrage démocratique.
Il suffit d'avoir un bon profil à Matignon pour rassembler les démocrates qui ont été élus au dernier scrutin.
Mais vous êtes 65, les républicains sont 60.
En fait, M. Fenech veut être ministre de la Justice. C'est ça, en fait, vous allez être nommé ministre de la Justice.
Non, franchement, c'est pas une attaque.
Simplement, les républicains sont 65, genre. 65, c'est pas une majorité.
Il n'y a pas de différence majeure entre les républicains et un programme économique d'ensemble. Et vous avez une personnalité qui peut parfaitement aussi rassurer une partie de l'aile gauche d'ensemble et rassembler une majorité de projets.
Oui, mais ce serait qui?
C'est au président de décider.
Donc il a un petit pouvoir, tu vois.
C'est pas Elisabeth Borne qui va le faire, d'accord.
Vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous êtes 65. Fondamentalement, c'est ce que dit Gérard depuis tout à l'heure. Oui. Dans la période de cohabitation, vous aviez la majorité, point.
Elle existe, cette majorité à l'Assemblée.
Mais elle existe dans votre tête. Pardonnez-moi de vous le dire. Elle existe dans votre tête. Les gens qui ont voté républicain, ils n'ont pas voté. Mais pourquoi les gens ont voté républicain alors? Ils auraient voté pour Emmanuel Macron et la République en Marche. De quoi vous me parlez en fait? Vous êtes en train de me dire que votre programme, c'est le même que la République en Marche.
Vous connaissez le programme d'Emmanuel Macron?
Mais vous êtes en train
de me dire
que le programme des Républicains, c'est la même chose que leur programme de Renaissance.
J'ai pas dit ça.
Bah si, puisque vous dites la majorité existe.
Je pense qu'entre les Républicains et Ensemble,
il y a des passerelles. Mais il y a peut-être plus de passerelles avec le Rassemblement National, figurez-vous, parmi vos électeurs. Et ça, vous voulez pas l'entendre. Et ça fait 30 ans que vous voulez pas l'entendre. Parce qu'ils sont peut-être plus proches de Julien Audoul, vos électeurs, que de ceux qui ont voté Emmanuel Macron.
Mais ça vous arrange pas. La sécurité, on
pense. En fait, vous pensez pas à vos électeurs. C'est toujours pareil. Vous êtes au niveau, vous faites vos magouilles entre vous. Vous pensez pas à vos électeurs. Vos électeurs, ils sont pas sur votre ligne.
La France est un gouvernement.
Les gens qui ont voté pour les Républicains dimanche, ils ne sont pas sur votre ligne majoritairement. Autrement, ils auraient voté pour
ce qu'ils veulent, les Républicains.
Ils auraient voté pour Renaissance.
C'est remettre la France à l'endroit. Ils veulent remettre la France à l'endroit.
Oui.
C'est-à-dire en termes économiques, en termes de sécurité et en termes de lutte contre l'immigration.
Oui,
tout ce que n'a pas fait Macron.
C'est toujours la fracture et même le gouffre sidéral entre les barons des Républicains et les électeurs des Républicains. En fait, vous ne comprenez pas, il est vrai, vos électeurs, vous ne les écoutez pas. Vos électeurs, ils ont voté contre Macron. Vos candidats ont été élus contre des députés macronistes.
Tout à fait.
Contre des candidats macronistes.
Il faut leur laisser le pouvoir.
Non, mais attendez, excusez-moi. Vous avez fait un score qui est quand même historiquement bas. Historiquement bas. Parce que Macron a siphonné votre parti.
C'est ça.
Voilà. Donc,
là, je suis d'accord.
Donc les 65 députés que vous gardez. Attention, les 65 députés que vous gardez.
Mais vous devriez surtout vous
rendre des opposants à Macron. Ce sont des opposants. Et aujourd'hui,
moi, j'ai travaillé avec Édouard Philippe, j'ai travaillé avec Aurore Berger, j'ai travaillé avec Darmanin, je les connais bien.
Et donc, vous voulez travailler
avec Macron. Il n'y a pas de fossé.
Donc, vous voulez travailler avec Macron.
Je dis que Macron est à l'Élysée. Je dis qu'il faut laisser le pouvoir de diriger la France en tous les termes économiques, sécurité, etc., à l'Assemblée nationale.
Par un groupe qui a fait 65 députés. Quoi, 65 députés. Ah oui,
non mais je prends date. 242 députés va laisser le pouvoir.
Je suis
à
tellement convaincu députés. Que le président de la République trouvera la solution. Le profil pour rassembler une majorité au sein de cette Assemblée nationale.
Monsieur Macron, si vous
n'avez pas de choix.
Formidable, je suis sûr qu'il va trouver la solution.
C'est de sa responsabilité.
Mais bien sûr, ce que vous ne voulez pas entendre, et c'est une vraie question, votre électeur, il est plus proche de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron?
Moi, je ne pose pas du tout la question comme ça.
Ah oui, parce qu'elle vous arrange
pas.
C'est une vraie question, si vous me permettez. Mais comme toujours, les vraies questions...
C'était aussi évident que ça, ils voteraient Rassemblement National.
Exactement.
Bah donc, sauf qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont voté les Républicains.
Mais ce n'est pas ma question. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est plus proche de qui?
Mais je ne sais pas s'il est plus proche.
Ah, je pose la question. Il est bien plus proche de
si
quelqu'un.
Vous dites ça, il y a beaucoup de
les Républicains
LR qui vous diront exactement la.
Ah, les responsables.
Et si vous me permettez, après on met la pub.
Si vous demandez à Pradier, c'est pas un baron. Pradier, c'est un député qui a fait
son
dans un département président.
La pause. Et pour étayer mon propos, la seule fois où le Front National a été faible dans une élection présidentielle, c'est quand précisément Nicolas Sarkozy en 2007 avait mis le cap à droite. Et il avait pour le coup siphonné ses électeurs parce qu'il parlait aux électeurs de droite. La pause.
Regardez quand même les reports. Hein.
Restez avec nous parce que Georges Fenech est extrêmement en forme ce matin. Audrey Berthel.
Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo. Le mois dernier, elle devenait virale. Un cycliste se faisait volontairement renverser par un camion avant d'être tabassé par le conducteur. Eh bien, le procès de l'agresseur se tient aujourd'hui à Saintes, en Charente-Maritime. Des cyclistes de la France entière feront le déplacement pour soutenir la victime. En Chine, des pluies torrentielles jamais vues depuis 60 ans ont touché les régions du sud et de l'est du pays, entraînant d'importantes inondations et des glissements de terrain. Des centaines de milliers d'habitants ont dû être évacués. Enfin, après 2 ans de pandémie, la fête reprend à Ibiza. Les boîtes de nuit ont rouvert avec un mois d'avance afin de renflouer leurs caisses. Et les fêtards étaient au rendez-vous. Si la pandémie a touché tous les secteurs, le monde de la nuit a été le dernier à reprendre du service en raison des restrictions sanitaires.
Tout va bien. Si on peut faire la fête à Ibiza, tout va bien. Je salue Jean-Pierre Versini, dit Tonton, qui nous écoute et qui nous écrit ce Emmanuel Macron n'a pas seulement oublié le mot retraite, il a oublié aussi le mot immigration, ce qui est toujours intéressant. Il y a des mots qui fâchent. Immigration.
Il ne l'avait pas beaucoup utilisé avant, c'est pour ça que c'est moins...
Il
a raison de faire, mais c'est vrai que ce n'était pas dans son programme.
Écoutons Emmanuel Macron sur la clarification, parce qu'il a une sorte d'injonction, et vous y répondez manifestement, chaque parti doit choisir très vite son camp. Emmanuel Macron.
Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action, s'engager à voter simplement certains textes, notre budget, lesquels, pour avancer utilement. Il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
Bon, vous, c'est clair.
Les Français l'ont dit.
Arrêtez avec les Français. Je veux dire, arrêtez, vous faites parler les Français. Les Français,
ils se sont exprimés.
Oui, oui.
Il y a eu un rejet de ce projet.
Oui, mais ils n'ont pas un rejet aussi pour vous. Vous en avez 65. À la limite, monsieur Odoul dirait que le Premier ministre.
Vous trouvez normal que le président de la République adresse une forme d'ultimatum aux partis politiques en leur disant entendez-vous. Ben oui, c'est un ultimatum.
Un petit peu. Il a même dit. Je crois qu'il a dit 48 heures d'ailleurs.
Non, il n'a pas dit 48 heures. C'est le commentaire.
Chaude plutôt. Il renvoie.
La patate chaude,
c'est les autres. C'est qui? C'est les Français qui ont
été exprimés là. Si on peut, Georges, là où tu te trompes, c'est que le pouvoir est partagé désormais. Macron garde des pouvoirs et puis l'Assemblée a des pouvoirs. Donc Macron a dit, à vous de voir si vous voulez trouver un compromis ou si vous ne voulez pas le trouver. Sous-entendu, si vous ne le trouvez pas, à un moment ou à un autre, on retournera
on
devant les électeurs.
On peut faire comme les Belges, rester 2 ans sans gouvernement aussi.
Oui, d'ailleurs,
la Belgique est allée mieux.
La sixième puissance économique du monde.
Vous savez que parfois, je me dis que ça ne marcherait peut-être pas plus mal.
Je ne suis pas du tout d'accord, parce que vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de grandes réformes qui n'ont pas été faites depuis des années, qu'il va falloir faire, hélas, et qui ne sont pas des réformes populaires.
La retraite, vous la faites pas.
Et notamment.
Juste pour terminer,
il y a la santé, vous parliez d'immigration, même l'immigration. Éventuellement, tout ça, c'est des réformes qu'il faut faire. Et si vous n'avez pas de majorité pour la faire, vous ne la ferez pas.
C'est toi qui le dis, Gérard, qu'il faut faire des réformes.
Ah bon.
La réforme des retraites, elle n'est absolument pas prioritaire.
Non, ça coûte.
Je suis désolé,
ça coûte,
elle n'est pas prioritaire.
Entre 10 et 20 milliards par an, mais
non,
c'est pas
prioritaire. Non, elle n'est pas en déficit.
Elle est urgente.
Il y a des chiffres quand même.
Justement, les chiffres montrent qu'elle n'est pas prioritaire.
Vous savez combien, je fais juste une parenthèse, vous savez combien depuis le 24 février on a payé en plus les hydrocarbures à la Russie, la France simplement.
Ah oui, on a augmenté.
Vous savez combien? 4 milliards, ça nous coûte. 4 milliards. Vous savez combien la Russie gagne en plus depuis le 24 février? 64 milliards. 64 milliards. Ouais. C'est l'arroseur arrosé, c'est le sanctionneur sanctionné.
Je voulais dire ça qu'il fallait pas.
Je vous dis pas ça. Je vous dis simplement que les sanctions qu'on a prises, contre la Russie, c'est nous qui les payons aujourd'hui. Et dernière chose, vous savez qu'on rouvre dans toute l'Europe des mines à charbon. Donc pour l'écologie, c'est parfait. On rouvre des mines à charbon aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, et peut-être la mine en France, on va en rouvrir une. C'est vraiment bien.
Une fois que vous avez dit ça, quelle est la...
Eh ben, je soumets ça à votre réflexion.
Ah bah oui, vous soumettez ça, mais ça veut dire qu'il ne fallait pas prendre de sanctions.
Je soumets ça à votre réflexion.
Ben non, mais dites-moi.
C'est-à-dire que les Russes gagnent plus d'argent.
Non, enfin bon.
Bah, ils gagnent plus d'argent. Vous savez pourquoi ils gagnent plus d'argent? Parce qu'on en achète moins, parce que les cours ont explosé. Oui, donc ils ont gagné 100 milliards de plus depuis le 24 février.
Quelle leçon vous en tirez?
Eh bien, je le soumets à votre
réflexion. Leçon à tirer déjà.
C'est-à-dire qu'il ne fallait pas aider l'Ukraine.
Je le soumets à votre réflexion. Excusez-moi, mais il y avait des leçons à tirer de 2014 et des premières sanctions qui ont donné comme résultat de rendre autosuffisante la Russie. Et aujourd'hui, si je m'en réfère à un article du Guardian, Poutine est en train de gagner la guerre économique. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux marchés, parce qu'il a l'Inde, parce qu'il a la Chine. Il est en train de constituer une superpuissance avec le pays le plus peuplé du monde. Et nous sommes sanctionnés. Et ce sont les Français et les Européens qui, aujourd'hui, voient le prix de l'essence exploser.
Il y a d'autres éléments.
Deux petites choses.
Qu'est-ce qu'on faisait? Donc on ne prenait pas de sanctions contre la Russie.
Adapter les sanctions.
D'Éric Zemmour. Deux petites choses avant. D'abord, Yaël Braun-Pivet, candidate président à l'Assemblée nationale, c'est elle qui sera élue pour la première fois. C'est une femme au perchoir.
Si c'est le cas, ce sera très bien.
Et il se trouve qu'Aurore Berger a été désignée présidente du groupe. Et je vous propose d'écouter Mme Yaël Braun-Pivet. Elle est à côté de Mme Aurore Berger, parce qu'elle considère peut-être à tort ou à raison que le plus important, c'est que ce soit une femme. Écoutons.
Nous avons élu ce matin Aurore Berger, présidente de groupe. C'est la première fois qu'une femme va présider le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. À l'instant, mon groupe vient de m'élire pour être leur candidate présidente de l'Assemblée nationale. Donc je pense que à l'instant où on vous parle, c'est ça qui est important et pas faire des commentaires et de tirer des plans sur la comète qui n'existent pas. Ça, Aurore Berger et moi, ça existe.
C'est important parce que Madame Braun-Pivet, ça va être un vrai test justement par rapport à ce que disait Georges pour savoir si ça marche ou pas. Si elle est élue, ça veut dire que la droite, les Républicains, l'auront laissé passer et n'auront pas réussi à se mettre d'accord avec d'autres groupes d'opposition sur un autre nom. C'est hyper important parce que ça indique, à mon avis, la voie alternative à ce que tu indiques, Georges, qui est que si la droite ne renverse pas le gouvernement macroniste. Attends, je termine.
Ça n'a rien à voir.
Si la droite ne renverse pas le gouvernement macroniste et que le gouvernement macroniste prend les amendements de la droite, eh ben, il y aura un équilibre qui durera peut-être pas 5 ans, mais il y aura un équilibre qui se créera. Donc ça va être un vrai test.
Elle est acquise, elle aura le plus grand nombre de voix.
Eh ben oui, ben donc ça
donc
veut
vous
bien
avez
dire.
Pour elle
mais ça veut bien dire, Georges, que
si elle doit tenir, elle sera élue.
Ça veut dire qu'il y a
très bien,
un plus fort.
Il y a beaucoup de respect pour cette femme qui est avocate, qui a présidé la commission des lois.
Il n'y
a aucun problème, mais ça n'a rien à voir avec diriger un gouvernement et une politique.
Ça sera la majorité. C'est une indication. Bon, pour que ce ne soit pas Brand Pivet, il faudrait que toutes les oppositions se mettent d'accord sur un nom.
Sur un autre nom.
Sur un seul nom. Bah oui. Puisqu'ils sont 245.
Non, donc mais tu ne peux pas dire non simplement sans te proposer un autre nom.
Ah bah oui, il faut un candidat.
Il faut proposer un candidat. Ouais, ouais. Donc ça, c'est impossible.
Donc, est-ce que le Rassemblement national va voter pour qui vous allez voter bon,
le Rassemblement national. Ils proposeront leur candidat. Puis enfin, j'imagine. Et puis le
mais une fois que le candidat, il aura obtenu 89 voix au premier tour, et donc il n'aura aucune chance d'être élu, vous voterez pour qui au deuxième tour?
Ça, c'est une bonne question. Eh oui. Vous aurez la réponse bientôt.
Ouais, d'accord.
Bon, autre information qui m'a intéressé dans l'actualité. Alors, je pense que le grand public ne connaît pas le nom de cette femme. Chrysoula Zakharopoulou. Elle est accusée de viol. Il se trouve qu'elle est secrétaire d'État. Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant donc Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux après le dépôt de 2 plaintes pour viol, l'effet d'attrait de sa carrière de gynécologue. La première plainte dénonçant des faits de viol a été déposée le 25 mai et l'enquête ouverte 2 jours plus tard, soit le 27 mai. La deuxième plainte a été déposée le 16 juin. Les 2 plaignantes dénoncent des viols gynécologiques, c'est-à-dire des pénétrations pratiquées sans consentement lors d'un examen médical. Bon, tous ceux, moi je connais pas Madame Zakharopoulou, tous ceux qui la connaissent disent que c'est une femme exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle, que c'est d'abord un médecin gynécologue exceptionnel et que ils n'imaginent pas. Si tant est qu'on puisse
imaginer quoi que ce soit.
Voilà, imaginer quoi que ce soit, comme vous dites. Bon, tous, vraiment, il y a unanimité sur la professionnelle qu'elle est et sur la femme qu'elle est. Les 2 plaignantes dénoncent donc des viols gynécologiques, je l'ai dit. C'est une ancienne députée de La République En Marche. Et je trouve que, et c'est pas la première fois, ça pose le problème aujourd'hui de l'accusation. C'est-à-dire que dans l'espace médiatique, t'accuses quelqu'un et évidemment, cette personne est quand même, quoi qu'il arrive...
C'est pas l'espace médiatique, là. Et le parquet a ouvert une enquête, hein.
Oui, vous avez raison.
Oui.
Bah, mais alors, oui, mais quand tu déposes plainte, le parquet est obligé de faire une enquête. Dépose plainte contre vous, il y a une enquête immédiatement.
Soit ça apparaît totalement fantaisiste à ce moment-là, il n'y a pas d'enquête. Mais s'il y a des éléments qui sont à vérifier, le parquet ouvre une enquête. Et heureusement d'ailleurs.
C'est-à-dire que là, il y a 2 témoignages.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les médias doivent faire? Je trouve que c'est une vraie question. Qu'est-ce que les médias doivent faire? Est-ce qu'ils doivent en parler ou pas? Parce que dans le temps, paraît-il. Oui, mais dans le temps. On ne pouvait pas parler d'une plainte, je crois, tant qu'elle n'était pas instruite. C'est assez nouveau.
On peut parler de ce que vous voulez, c'est la liberté d'expression, mais ne pas confondre les rôles. Il y a les médias qui informent, et puis il y a la justice.
Oui, mais alors, et qu'est-ce qu'elle doit faire, Madame Zakharopoulou? Elle doit démissionner?
Je pense qu'il faut que très rapidement, le parquet avance sur cette enquête pour qu'on en sache plus.
Mais elle doit démissionner? Qu'est-ce qu'elle doit faire?
Je ne pense pas.
La jurisprudence baladure, c'est-à-dire qu'un ministre mis en examen doit démissionner.
Oui, mais vous avez vu que M. Macron, le président de la République...
Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron
a mis un terme à cette jurisprudence.
C'est une faute majeure. A laissé ministre, un ministre qui est mis en examen, qui s'appelle M. Dupond-Moretti.
Et qui l'a renouvelé.
Donc il n'y a plus aucune cohérence dans les règles par rapport à des ministres mis en cause. Il faut en revenir à la jurisprudence dite Balladur.
Mais là, le parquet qui ouvre une enquête, ça va pas. Donc c'est compliqué parce que dès qu'elle va parler, forcément, elle est contaminée par cette affaire. Et l'enquête qui a été ouverte. Non. Mais ça va pas se faire demain.
Rien n'oblige à démissionner.
Ah ben, bien sûr que non, mais je ne vous dis pas ça, loin de là.
On est dans le même cas que Damien Abad. Hein.
Mais en plus, on n'est pas dans le même cas, parce que là, c'est encore autre chose. Elle exerçait donc à l'hôpital Trousseau. Je veux dire, elle est en pointe sur un sujet qui s'appelle l'endométriose, que vous connaissez évidemment. Et c'est des viols gynécologiques.
Oui.
Donc
c'est dans un acte médical.
Bien sûr.
Pas se tromper,
c'est bien pas sûr. Donc c'est encore quelque chose d'extrêmement particulier. C'est-à-dire des pénétrations, je le rappelle, pratiquées sans consentement lors d'un examen médical.
C'est extrêmement rare quand ça la plainte vise une femme.
Oui, bien sûr.
Il y a des médecins gynécologues hommes, on en a eu.
Bien sûr.
Souvenir que t'es mis en jeu, condamné.
Éric Zemmour, que vous n'aimez pas du tout. Hein.
Moi, j'apprécie beaucoup l'intellectuel qu'il est.
Oui.
L'écrivain qu'il est, le pamphlétaire qu'il est, Mais en politique, il a tout faux, quoi. Oui. Tout, du début jusqu'à la fin. Et il continue aujourd'hui à nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Non, pardon. Il dit le pouvoir est à l'Élysée. Moi, je dis
il a tout faux, sauf que les sujets qu'il a mis sur la table en,
ils sont vrais,
à l'automne.
Et ça, donc, c'est son mérite. Il a enrichi le débat.
Donc il n'a pas tout faux quand même.
Mais politiquement, il a mal joué. D'ailleurs, je crois qu'il l'a reconnu, plus ou moins, qu'il a commis des erreurs, qu'il a été trop brutal. Vous vous souvenez quand il est venu nous dire la France va disparaître.
Bon, les LR, puisqu'il en parle, parce que lui aussi dit les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient. Évidemment, ça l'arrangerait que les LR soient du passé. Et c'est ce qu'il a dit hier. Les LR, c'est du passé.
Et bien sûr.
Ah oui.
LR, c'est un centre de formation de ministres d'Emmanuel Macron depuis 5 ans. Il y a ceux qui sont partis il y a 5 ans, il y a ceux qui sont partis comme Damien Abad il y a quelques semaines, et il y a ceux qui rêvent d'en partir. J'ai vu que Jean-François Copé frétillait à l'idée de rejoindre la Macronie et de redevenir enfin ministre et de retrouver sa voiture avec ses petits fanions. Maintenant il y en a d'autres qui ne voudront pas rejoindre Emmanuel Macron, soit par conviction, soit par calcul politique, pour pouvoir être l'opposant dans 5 ans dans la présidentielle. Comment ?
LR n'est pas mort, le parti n'est pas mort.
Moi, je pense que LR n'a plus d'espace. Pour les gens, j'ai l'impression que LR est déjà du passé. LR est une aile macronienne. Alors évidemment, les dirigeants de LR tentent de retenir leurs troupes, de dire « mais non, nous serons dans l'opposition ». J'attends de voir la suite.
La formule est bonne, LR, c'est le centre de formation des ministres, parce que c'est vrai.
C'est du commentaire politique, ça. C'est pas de la politique. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est intéressant d'écouter.
Écoutez, tout le monde,
c'est
tous
brutal.
Les hommes politiques...
Reconnaissez que c'est brutal de parler comme ça.
Tous les hommes politiques ont fait du commentaire. Emmanuel Macron en a fait, François Mitterrand en faisait, etc.
Bon, la politique, c'est l'action, c'est pas le commentaire.
Sur le fond.
Bon, Audrey Berthaud sur le fond, oui. Parce qu'il est 9h45.
La rentrée va coûter plus cher. Le prix des fournitures scolaires va augmenter de 10 à 40% en cause. L'envolée du prix du papier et du plastique. Les fédérations de parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme et réclament une hausse de l'allocation de rentrée scolaire. Faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid ? Le nombre de personnes testées positives augmente. 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures en France. C'est 3 fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. Enfin, la tuerie d'Uvalde, le chef de la police, a été suspendu. Il était en charge des opérations quand un tireur a tué 19 enfants et 2 enseignantes. L'annonce intervient au lendemain de vives critiques de la part du directeur de la sécurité publique du Texas.
Gérard, votre analyse à vous, parce qu'elle ne sera forcément pas partisane. Est-ce qu'elle c'est du passé ?
Je n'en sais, sur LR précisément, sur l'organisation LR, je n'en sais rien. Tout dépend de ce qui va se passer. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a place en France, comme dans tous les pays, notamment européens, pour un mouvement qui soit à la fois libéral, européen, qui insiste sur le régalien, c'est-à-dire social. Notamment la sécurité et l'immigration, et avec effectivement une social. Dimension sociale. Moi, j'étais le dernier.
Ça s'appelle le macronisme.
Non. Alors voilà, c'est toute la question. Non.
Si vous me permettez.
Non, si je vous
rappelle. Parce qu'il existe.
Je vous rappelle. Non, puisque. Non. Jusqu'à maintenant, le macronisme se voulait, selon la célèbre formule, en même temps, c'est-à-dire entre le centre droit et le centre gauche. Peut-être que demain, le macronisme va basculer définitivement vers la droite.
Il a basculé déjà à droite.
Non, vous avez
Édouard Philippe et Jean Castex qui sont les deux premiers ministres.
Vous avez aussi Le Drian, Dussopt, Ferrand, etc.
Il est plutôt centre droit que centre gauche. Disons-le.
C'est parce qu'il
la France est à droite.
Vous savez,
c'est à droite.
Oui, ça veut dire quoi, à droite ?
Julien Odoul.
Excusez-moi, parce que là, vous parlez en fait de la préhistoire. Les Français considèrent que la gauche et la droite n'existent plus. Et d'ailleurs, c'est en cela que nous sommes d'accord avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous avez un bloc mondialiste, plus européen, ultralibéral, pour la dissolution de la nation, qui est incarné par Emmanuel Macron. Et vous avez de petits partis satellites autour, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'intégrer un gouvernement, d'occuper un ministère, etc. Et vous avez un bloc aujourd'hui national autour de Marine Le Pen, et le seul clivage, il est là. Et il est tranché depuis 2017.
Pas quoi vous parlez.
Élection présidentielle.
Moi, je vous dis, la droite, c'est la valeur travail.
Et là, c'est la sécurité. Mais
c'est parce que vous ne savez pas de quoi il parle que vous êtes à 65 députés. Hein,
exactement.
Si vous permettez, hein.
Exactement. Et là, vous, vous me
parlez, si vous saviez de quoi il parle, vous en auriez 300.
Je pense que la droite a commis des erreurs.
Ah, ça, oui.
Jean Fenech, qui a fait monter Rassemblement National.
Mais c'est vos thèmes.
On se sera attaqué à la sécurité.
Ils ont piqué vos thèmes comme le plus important pour les LR. C'était surtout de ne pas s'aligner sur ce que disait Jean-Marie Le Pen. C'était surtout ça. Jean-Marie Le Pen, exactement. C'était surtout ça dans les années 80. Donc vous avez laissé glisser tranquillement vos thèmes et ils sont chez eux.
Je peux pas vous dire autre chose. Depuis 37 ans, la droite n'a rien fait pour ma sécurité, pour l'identité de mon pays.
Ne dites pas ça non plus parce que le président Sarkozy a tenté des choses en 2007.
Dans les mots, pas dans les faits.
Qui avait été abrogé ensuite avec l'arrivée de Hollande.
Des trahisons monumentales de Sarkozy.
Non, on peut pas dire ça.
C'est pour ça justement qu'il
nous
a
pas assez loin, c'est sûr. Zemmour.
Oui, bah, vous êtes variant.
Vous êtes complètement variant. Vous étiez avec Macron, et maintenant vous dites que vous n'êtes pas allé assez loin.
Mon discours vous indispose.
Je
me sens tout à fait équilibré dans mon propos. Je dis que nous avons une droite en France.
Georges.
Elle est gaulliste. Elle est sociale.
Mais
vous pouvez dire non.
C'est le passé.
Mais pas du tout.
C'est votre mythologie.
Vous vouliez être avec Emmanuel Macron. Maintenant, vous dites que vous n'êtes pas allé assez loin, les LR, et que vous avez fait des erreurs.
Je pense qu'on n'est pas allé assez loin en termes de lutte contre la sécurité.
Mais alors, allez avec Reconquête.
Mais pourquoi voulez-vous que je change de crèmerie?
La crème n'est pas bonne.
Je réponds à Pascal tout simplement parce que... Il y a la sécurité, mais il n'y a pas que la sécurité. Une économie, notamment sur l'Europe.
Et oui, mais enfin, c'est un clivage fondamental.
Il y a l'instruction, il y a l'école, tout ça.
Les positions ne sont pas les mêmes que celles du Rassemblement National.
Zemmour, pas de mea culpa. Zemmour, pas de mea culpa.
Non, vous êtes bien, vous ramenez, mais vous êtes dans le canot, là.
Bon. Remarquable, Georges.
Oui, je ne le prends pas comme un compliment.
Georges, il est...
Georges, mais si, vous êtes remarquable, franchement, ce matin. Vous êtes alors...
J'ai un petit peu convaincu...
Il y a une phrase que je cite souvent dans Les Femmes Savantes. On ne sait, après qu'il a parlé, on ne sait ce qu'il a dit.
Je crois que
c'est Chrysal qui dit ça. Chrysal dit ça en parlant de... Alors, je ne vais pas citer celui qui dit, parce que je ne veux pas vous comparer. Je crois qu'il parle de Trissotin, mais je ne veux pas vous comparer, bien évidemment.
J'ai rien dit depuis le début, quoi.
Mais c'est bien dit.
On ne sait ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Parce qu'après que, comme chacun sait, c'est l'indicatif. Bon. Je voudrais qu'on écoute juste Éric Zemmour, pas de mea culpa.
Si vous voulez, ce que je comprends dans tous les gens qui me disent « il faut reconnaître vos erreurs », ce ne sont pas des erreurs qu'ils me demandent de reconnaître. Ils me demandent un mea culpa, c'est-à-dire ils me demandent de dire « voilà, vous avez voulu imposer le thème de l'identité, vous avez voulu imposer le thème du grand remplacement et vous vous êtes trompé ». Ça, je ne le dirai jamais, parce que je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est le thème fondamental pour la France et c'est le danger fondamental pour la France dans les 10-20 ans qui viennent. Alors, peut-être que je le dis beaucoup, peut-être que je l'ai dit trop, peut-être que je l'ai dit trop rudement, mais je vous le dis, je ne cesserai jamais de le dire, car je pense que c'est la vérité. Et voilà, donc je ne mentirai pas aux Français, je ne reconnaîtrai jamais ce qu'on veut me faire avouer. On veut me faire dire, oui, il y avait des éléments plus importants. Non.
Cher Éric, ce sont les Français qui vous ont dit que vous êtes trompé. C'est pas nous qui le disons. Vous n'avez même pas été fichu d'être élu député sur votre idée essentielle que la France va disparaître, qu'il y a un problème d'identité nationale. Vous êtes intelligent, vous êtes un parfait intellectuel qu'on apprécie et qu'on écoute, mais politiquement, vous vous êtes trompé. La France n'a pas disparu et il n'y a pas de grand remplacement.
Bon, il a raison, Georges.
Georges domine nos débats ce matin. Georges est dans les cimes.
Nous sommes écrasés.
Nous sommes ce matin, Georges. C'est une de vos meilleures prestations.
Non, mais là, je pense qu'il est sincère. Philippe est sincère.
Je
me méfie un petit peu.
Éric Zemmour est un brillant doctrinaire. C'est pas du tout un politique.
Absolument.
Julien Audoul, on va vous remercier. Comment ça? Alors, c'est la première fois que vous rentriez, évidemment,
En tant que parlementaire, oui. Parce oui, que j'étais collaborateur.
En tant que député. Donc, j'ai posé la question à Karl Olive hier et puis à David Guiraud. J'imagine qu'il y a une émotion quand même. Oui. Vous rentrez dans. Ça, j'imagine que vous avez peut-être pensé, on le disait hier, peut-être à votre famille, je ne sais pas, vos parents,
j'ai pensé à ma grand-mère.
Oui.
Ma grand-mère, c'est mes racines de Lyon. Oui. Et c'est grâce à elle que je fais de la politique. Oui. Malheureusement, elle n'est plus là pour le voir. Oui. Mais j'aurais aimé qu'elle me voie entrer à l'Assemblée comme député de Lyon.
Ouais, parce que c'est pas rien, je le disais, député, je trouve qu'il y a une charge plus forte encore que maire. Alors, quand tu rentres député, la Chambre des députés, c'est dans notre imaginaire, c'est quelque chose de très puissant.
La
représentation nationale,
c'est
vraiment.
La révolution française. Hein,
cas, oui, c'est ça.
C'est 1789.
C'est quand même le fait politique, moi, quand j'étais député.
Oui, mais c'est à lui.
Il y avait deux députés du Rassemblement national. Oui. Il y avait Gilbert Collard et Marion Maréchal. Aujourd'hui, vous êtes 89. C'est extraordinaire.
Le vrai fait politique. 1789,
le vrai fait politique, il est là.
Bon, je suis d'accord avec vous, mais c'était le moment, Odoul, parce que vous partez là, donc je voulais vous arrêter. Non, mais il y a cette émotion-là, je ne sais pas si.
Ah, bien sûr, mais je l'ai ressenti tout de suite. Et, il y a vraiment une charge de responsabilité de dire qu'on va pouvoir faire la loi, voter la loi au nom du peuple, parce que nous ne sommes que des représentants du peuple souverain. C'est. À la fois une responsabilité énorme et puis un honneur.
La pause. Moi, ce que j'attends, si j'ose dire de vous, mais j'attends ça de tous les, comment dire, de tous les partis, c'est que vous proposiez des lois claires sur des sujets qui importent aux Français et que chacun se détermine. Ça m'intéresse vraiment de savoir des lois extrêmement claires. C'est pour ça que c'est intéressant, cette Assemblée nationale. C'est la première fois. Tout est représentant. Donc j'attends de vous que vous mettiez des lois très claires, sécurité, immigration, éducation, etc. Et après, chacun se détermine. Voilà, on saura,
mais vous pouvez compter sur nous pour travailler.
On saura qui est qui. Et on saura où placer les uns et les autres. Ça m'intéresse beaucoup. Mais je pourrais dire la même chose à la France insoumise, bien évidemment. Merci, on va recevoir M. Garbarini dans une seconde. On aime parler de la justice. Il y a un cas personnel qui le touche. Et c'est pour ça qu'il est là ce matin et il voulait témoigner. Alors évidemment, ce ne sera qu'un témoignage. Il y aura pas, on n'aura qu'une version, la sienne. Mais ça va être intéressant d'écouter Pascal Pierre Garbarini, qui est avocat au barreau de Paris. À tout de suite. Il est 10h02, Audrey Berthaud.
Un moment décisif pour l'Union européenne, ce sont les mots de Charles Michel, président du Conseil européen. Le destin de l'Ukraine se joue à Bruxelles. Les 27 se penchent aujourd'hui sur sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. Une étape hautement symbolique près de 4 mois après son invasion par l'armée russe. 2/3 des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Un pourcentage qui monte à 70% chez les plus de 50 ans. Et cette idée semble trouver des partisans à gauche. 4 sur 10 considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Enfin, en Argentine, 8 professionnels de santé seront bien jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes au terme de l'enquête sur la mort de Diego Maradona. Les 8 suspects risquent des peines allant de 8 à 25 ans d'emprisonnement.
La formule exacte de Chrysal dans Les Femmes Savantes, c'est « on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé ». Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé. Ça ne vous concerne pas, bien sûr. Mais... on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Bon, Pascal-Pierre Garbarini est avec nous, je le remercie. Vous étiez venu nous voir précisément, d'ailleurs, pour parler de Jacques Santoni, que vous défendiez, qui est présenté comme un des parrains corse. Je disais tout à l'heure, vous serez sur notre plateau pour parler de cette affaire qui nous intéresse beaucoup. Simplement, on n'aura qu'une version, la vôtre. Dans le débat contradictoire, il n'existe pas. Mais vous êtes mis en examen aujourd'hui, et c'est pour ça que ça m'intéressait de comprendre le fonctionnement de la justice française. Vous êtes mis en examen, vous êtes placé sous le statut de témoin assisté de chef de blanchiment. Vous êtes mis en examen de chef d'association de malfaiteurs. Vous êtes placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec l'ensemble des parties du dossier, dont votre client Jacques Santoni. Et ce que vous dites au fond aujourd'hui, c'est que la défense pénale n'existe plus.
Exactement. Et puis, pour plagier quelqu'un auquel je n'arrive pas à la cheville, c'est-à-dire que j'ai commencé une carrière de malfaiteur à 58 ans.
Oui.
Alors, avant, je faisais l'avocat, mais maintenant, j'ai décidé de devenir malfaiteur.
Alors, pour mettre en perspective, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe, vous défendez depuis le 12 avril 2019, c'est ça ?
C'est-à-dire que Jacques Santoni, je le défends depuis 2003. Ça fait 20 ans que je défends cet homme. Qui est soupçonné donc d'avoir participé en tant que commanditaire, puisqu'il est tétraplégique, à plusieurs assassinats et tentatives d'assassinat et d'associations de malfaiteurs. Bref, dans cette affaire-là, le 11 janvier 2021, sur la base de 4 ans de sonorisation de son appartement à Paris. Il est placé en mis en examen pour blanchiment, association de malfaiteurs, etc., etc. Et il me désigne. Je le défends. J'étais venu ici vous parler des conditions de sa détention puisqu'il était tétraplégique et que j'ai une vingtaine d'expertises judiciaires ordonnées par les juges et les tribunaux qui disent que son état de santé est incompatible. Et je fais mon métier, c'est-à-dire que je fais des demandes de mise en liberté. Elles sont rejetées. Je vais devant la cour. Elles sont acceptées. Il est libéré. Une fois, deux fois. La deuxième fois, c'est le 30 mars 2022 et le 11 avril 2022, pendant que je suis dans le procès de la BRI pour l'affaire de la Canadienne du 36.
Émilie Spanton,
je reçois une convocation pour me placer en garde à vue. La petite histoire, c'est que je la reçois, c'était le jour où je devais plaider l'affaire. Bref, on m'informe que c'est reporté, je suis placé en garde à vue et là je me dis... Il doit y avoir des éléments nouveaux, je les cherche, puisque le dossier a 18 mois d'existence. Le dossier, je le connais par cœur, les éléments, je les sais. On ne m'a pas dit, lorsque Jacques Santoni m'a désigné, on ne m'a pas dit, Maître Garbarini, vous ne pouvez pas rentrer dans la défense. Ou, Monsieur Santoni, vous ne pouvez pas prendre Maître Garbarini parce qu'on va l'entendre. Parce qu'il a un rôle, ce qui parfois arrive. Rien, je fais ma défense. Je lis le dossier. Je rencontre mon client. Je discute des éléments à charge et à décharge. Très bien, parfait, ok. Et là, on me dit, sur les mêmes éléments, c'est-à-dire qui existent depuis le 11 janvier 2021, on me dit, vous êtes un malfaiteur et vous faites partie d'une association de malfaiteurs. Là, je dis, ah bon, mais sur quels éléments? Eh bien, vous voyez, vous le connaissez trop, d'accord. Vous avez une relation de proximité. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, proximité? Oui, ben, des relations amicales. J'ai dit, mais messieurs, madame, peu importe. J'ai dit, mais je le connais depuis 20 ans. En plus, il est tétraplégique. Quelle relation voulez-vous que j'aie? Pour moi, ce n'est pas un numéro. C'est un homme que je défends. Je ne défends pas un dossier, moi. Je ne défends pas une cause.
Mais on vous reproche d'avoir touché de l'argent liquide.
Qui sont déclarés. Qui sont déclarés.
Parce qu'effectivement, monsieur Santoni, quand il veut vous payer, il ne va pas contracter un prêt à la Banque Populaire.
Alors là, je vous arrête.
Donc, il vous paye en liquide. Oui, ce qui pose aussi le problème de la justice. Avocats pénalistes.
En général.
De l'argent en liquide de malfaiteurs.
Moi, des voyous qui font. Oui. Des voyous présumés qui font des prêts pour payer les avocats, j'en connais pas.
Hein. Oui, je suis d'accord avec vous.
32 ans que je fais ce métier.
Je suis d'accord, mais les avocats pénalistes reçoivent de l'argent, entre guillemets, est-ce que je peux dire sale?
Non. J'en sais rien.
Bah, je vous pose. Vous n'en savez rien.
Non, mais à ce moment-là.
Vous voyez ce que. Mais non, pose la question.
Mais c'est une très bonne question. Donc arrêtons la défense pénale.
Mais vous savez que l'autre jour.
On arrête.
Paraît-il, un juge a dit à un avocat pénaliste que les avocats pénalistes devraient dépendre de l'État et payer par l'État français.
Absolument. C'est ce qui m'a été dit. Là, c'est ce qui m'a été dit. Il m'a dit, vous devriez être fonctionnaire et, encore plus fort, votre salaire serait aligné sur celui des magistrats.
Ça vous a été dit.
Ça m'a été dit par le juge. Donc ça, c'est extraordinaire.
C'est au dossier, vous l'avez fait écrire au dossier.
Bien sûr, c'est la négation du métier. Et deuxièmement, encore une fois.
Mais on vous reproche l'argent en liquide, nous sommes d'accord.
On ne me le reproche plus.
En espèces.
On ne me le reproche plus puisque je l'ai justifié. C'est pour
donc
ça que
quand vous avez de l'argent en espèces, vous le déclarez.
Ah, je le déclare, c'est soumis à l'impôt, je fais des notes d'honoraires. Je fais des notes d'honoraires, etc.
Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche dans ce
mais précisément là, précisément. Alors ça, au début, c'était cet élément-là des honoraires, c'était dans une fonction de blanchiment et qui a été abandonné.
Oui.
Et on a mis tout ça, notamment bien évidemment les honoraires, dans l'association de malfaiteurs, qui est une sorte, on le dit tous, d'infraction fourre-tout qui vous permet de, d'accord. Mais ou pourquoi je suis révolté? Je suis révolté parce que, outre le fait que, bien évidemment, je déclare mes revenus, je paye des impôts, et c'est tout à fait normal. Je suis révolté parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, au bon vouloir d'une décision, d'une juridiction d'instruction, l'avocat, il disparaît.
Mais alors que la personne, je le défends depuis... Au fond, qu'est-ce qu'on vous reproche? D'avoir été trop brillant et d'avoir fait sortir Santoni?
Peut-être. Je n'en sais rien. Non, mais je n'irai pas sur ce terrain-là.
Trop grande proximité. Avec
trop grande proximité.
Mais alors, la trop grande proximité.
Entre le moment où il est sorti et le moment où la mise en examen, où la convocation est arrivée, il s'est passé 11 jours. Donc ce qu'on vous reproche, si j'essaye de comprendre,
L'association de malfaiteurs, c'est quelque chose de très précis dans la loi. C'est-à-dire qu'on doit
je ne connais pas le dossier, vous reprochez des éléments matériels précis dans le cadre d'une association de malfaiteurs pour commettre des infractions.
C'est une entente
préalable.
C'est une entente préalable.
Ce n'est pas la proximité qui est un délit d'association de malfaiteurs.
C'est une entente préalable en vue d'avoir un projet criminel ou délictuel.
Voilà, c'est ça qu'on vous reproche.
Donc je vous explique. Oui. Par exemple, on me reproche de chuchoter avec mon client. L'appartement est sonorisé.
Non, mais chuchoter, ce n'est pas un délit.
Eh ben c'est exactement ce qu'il y a dans ma mise en examen.
Il y a des choses qu'on ne sait pas.
Quand vous dites l'appartement de monsieur Santoni,
alors, je ne mets pas en doute votre parole.
Moi, je vais vous dire, franchement.
Mais il y a des choses que les juges doivent avoir.
Non, mais à ce moment-là, s'il y a des choses qu'on les juge, il faut les soumettre.
Absolument.
On ne me met pas en examen en disant on a des dossiers dans le placard. Moi, j'ai aucun dossier dans le placard. J'ai défendu cet homme comme je défends tout le monde. Au bout de 17 mois, on vient me chercher en disant on me prend par l'oreille.
Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes mis en examen pour association de malfaiteurs parce que vous êtes proche de votre client. Ça n'existe pas, ça.
Ça existe.
D'autres éléments dans le dossier.
J'en suis la preuve vivante. Il y a ce que vient de dire Pascal Praud. Il y a, premièrement, le fait que je chuchote. Le fait que j'ai pris, je chuchote.
Mais c'est peut-être justement dans ces chuchotements que les enquêteurs ont entendu des choses qui sembleraient indiquer, j'en sais rien du tout. Sembleraient indiquer que vous êtes de mèche avec lui. Quoi.
Vous savez, j'ai défendu.
Non, mais c'est le rapport entre l'avocat et.
C'est le rapport avec le client. Oui,
c'est voilà, moi, les choses.
Mais d'abord, je ne participe à aucun projet criminel. Deux, le chuchotement. Vous le dites, mais le chuchotement, il n'est pas retranscrit. C'est-à-dire que je chuchote avec vous, et vous ne savez pas. Non, mais vous ne savez pas ce que je vous dis dans le cadre de votre défense, et vous en tirez la conclusion que j'ai commis une infraction. Monsieur à ce moment-là, il faut retranscrire le chuchotement en disant « Maître Garbarini a dit à son client « Passe-moi, entre guillemets, les revolvers et on va aller sur un lieu ». C'est pas du tout ce qui s'est passé.
Monsieur Garbarini, quand vous dites que l'appartement est sonorisé, c'est-à-dire que l'appartement de Monsieur Santoni, il y avait des micros placés, en l'occurrence, par la police.
Pendant 4 ans, normalement le maximum c'est 2 ans, mais au travers de multiples procédures, il a été entendu exactement pendant 4 ans, 4 mois et 14 jours. Et lorsqu'on parle de proximité, on devrait dire, Maître Garbarini, toutes les semaines, il était chez lui. Ou tous les mois. Oui. Sur 4 ans, 4 mois et 14 jours, 2 fois j'y vais. 2 fois. Ouais. 2 fois.
Mais en France, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de nous écouter. On peut sonoriser un appartement.
Oui, ce sont depuis les lois de 2006.
Je vous explique.
Mais comment il rentre? Alors, ça se voit pas ?
Ah non, ils sont rentrés. D'ailleurs, il y a même une anomalie dans le dossier parce qu'en fait, ils l'ont laissé le micro parce qu'en revanche, comme Santoni avait changé la porte de la serrure de la porte, ils n'ont pas pu récupérer le micro. Mais donc, il a été entendu pendant 4 ans. Donc, on sait tout sur sa vie médicale.
Ouais.
On sait tout sur sa vie sexuelle.
Ouais.
On sait tout sur sa vie privée.
Oui, mais ça, pourquoi pas ? Si c'était un terroriste, c'est la loi. La loi le permet.
La loi permet. Elle permet d'écouter, mais elle permet d'écouter par rapport à une infraction. Oui. Est-ce que ça vous ferait plaisir ?
Les filets dérivants, là. Oui.
Vous êtes poursuivi, je ne sais pas, pour vol.
Non, mais Monsieur Santoni, le profil de Monsieur Santoni est...
D'accord, mais...
Il a été condamné par la justice française, déjà ?
En 2008.
Oui. Eh bien, il a
2008.
Été condamné. D'accord.
2008 pour une association de malfaiteurs. Donc, depuis 2008, on est en 2022. Mais peu importe. Moi, je ne suis pas venu parler de Anthony.
Non, mais c'est intéressant de voir le profil. Oui, mais je suis d'accord.
Moi, je me retrouve dans une situation qui est quand même... Donc, aujourd'hui, je suis empêché de le défendre. Aujourd'hui, Jacques Santoni n'a plus d'avocat. Et moi, si vous voulez...
Parce qu'on vous reproche peut-être d'avoir été trop, je l'aurais dit, trop...
Vous pouvez faire appel dans la chambre d'instruction.
Ne vous inquiétez pas, j'ai des avocats. Comme je me défends ici, vous vous doutez bien que je me suis défendu.
Et
je vais me défendre encore. Et ils ne vont pas tomber sur un ingrat. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que mon propos, il est personnel, mais pas que. C'est qu'aujourd'hui, la défense pénale, elle est fragilisée.
C'est ça qui m'intéresse.
À partir du moment où vous dites, vous vous rendez compte, vous dites, l'avocat, il chuchote à l'oreille de son client. Mais quand j'allais voir Yvan Colonna, quand j'étais son avocat, bon, je lui chuchotais tout le temps à l'oreille. Pourtant, j'étais dans un parloir avocat, à la prison, à Fresnes. Mais parce que je me disais, il y a peut-être des micros. Et on n'a pas à connaître quelle est ma stratégie de défense. Et pourtant, je n'étais pas en train de prévoir une évasion.
Ça fait partie du jeu. Si on ne peut plus jouer avec les cartes de la défense, vous verrez, et je ne vous le souhaite pas, comment vous ferez avec votre avocat si vous avez besoin un jour? Vous voudriez que ça se passe comme
non,
cela?
Non, attention, j'essayais de comprendre.
Nous, on est, voilà, que peut-être je ne vous accuse pas, mais je vous explique que la situation.
Que dans les chuchotements, en tout cas, cette histoire m'intéressait. C'est que peut-être, c'est une hypothèse, j'y connais rien, je ne connais pas le dossier. Peut-être que dans vos chuchotements, ils ont entendu des choses qui indiqueraient que vous êtes... que vous, oui, vous pouvez être accusé d'association de malfaiteurs. Voilà
réponse,
ce que je disais.
La réponse, j'en sais rien, hein, la réponse est non, et je ne chuchote pas.
Vous êtes avocat depuis combien de temps ?
32 ans. Bon.
C'est les avocats pénalistes, effectivement. C'est très, moi, je trouve que c'est très intéressant de vous écouter. Je le répète, on n'a qu'une version.
Bien sûr,
c'est la vôtre. Hein, en toute chose, il faut la version contradictoire.
Et faites venir des avocats fiscalistes. Ils vous expliqueront ce qu'ils vivent. Également. Parce que fiscaliste, oui, sur les optimisations fiscales. Oui. Aujourd'hui, on considère qu'ils font des abus de droit et on les soupçonne ensuite de blanchiment. Et ils sont placés en garde à vue. Aujourd'hui, quand on parle, rien qu'au barreau de Paris, tous les jours, il y a 5 à 6 perquisitions dans les cabinets d'avocats. Et pas que les pénalistes. On va vraiment dans une situation où la défense n'est plus possible. Le secret professionnel, nous l'avons vu, il est foulé aux pieds. Le secret professionnel, ce n'est pas, encore une fois, pour les avocats qu'il existe. C'est pour les clients. Ce sont les clients qui ont besoin du secret professionnel. Si demain, vous avez commis quelque chose ou non, il faut bien que vous l'expliquiez à votre avocat pour qu'il vous défende. Et cela, aujourd'hui, c'est battu en brèche parce qu'il y a des sonorisations. Ah ben, il chuchote, etc., etc. Où on va ? Ce qui est quand même fou.
Mais c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin. Je trouve que ça fait partie des sujets qui m'intéressent.
Le secret professionnel, c'est une vraie question.
Bien sûr, et on l'a vu dans l'affaire Herzog-Sarkozy. Oui, bien évidemment.
Et les fadettes d'Éric Dupond-Moretti.
Exactement, on l'a vu également. Ouais. Bon, c'est passionnant. Audrey Berthaud.
La SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été afin de répondre à la demande record. Selon le PDG Jean-Pierre Farandou, les trains sont selon lui complets les jours de grand départ, mais il reste des places en dehors de ces périodes. En Afghanistan, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Au moins 1000 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans le séisme qui a secoué le sud-est du pays. Le tremblement de terre a touché les provinces de Paktika et de Khost à la frontière avec le Pakistan. Enfin, en sport, à 20 ans, Léon Marchand est le nouveau leader de la natation française en remportant le 200 mètres quatre nages aux Mondiaux de Budapest. C'est sa troisième médaille de la compétition, la deuxième en or. Prochain rendez-vous, les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Parce qu'on était dans le chapitre Zemmour et puis c'est vrai qu'on vous a écouté et c'était très, très intéressant. Je voudrais qu'on parle également de l'écriture inclusive. Mais Audrey parlait de la SNCF. Il y a un dysfonctionnement que je trouve terrible. On est le 23 juin, mais pas le 24 juin d'ailleurs, ou 24 juin, mais 23 juin, mais depuis quasiment le 1er juin, tous les trains, vous entendez bien, tous les trains de la SNCF qui partent de Paris pour l'ouest de la France sont complets le vendredi et le samedi des week-ends d'été. Tous les trains. Vous ne trouvez pas un train Paris-Biarritz, Paris-La Baule, Paris-Saint-Brieuc, Paris... Le vendredi et le samedi. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai que ça pose un... Comment ?
Les gens réservent très longtemps à l'avance.
Ils réservent, mais surtout, ils font 5 réservations. Ils font 5 réservations parce qu'en plus, aujourd'hui, tu peux enlever ta réservation, etc. Donc, il y a un système qui est assez compliqué. C'est-à-dire que tu veux partir à Bordeaux le vendredi prochain, tu ne peux pas. Et je voulais y aller.
Alors il faut attendre.
Tu voulais en parler.
On avait compris.
Mais donc c'est absolument.
Vous pouvez trouver un billet pour.
Non mais c'est vrai, je vais aller sur. Bon, c'est fascinant l'avance. Bon, on a tout dit ou pas sur ce sujet?
On peut encore en parler.
Hein. Oui, mais c'est en même temps. Mais est-ce qu'on a dit l'essentiel?
Non mais je veux dire, par exemple, juste un mot. Non mais juste un mot. Oui. On reproche également, c'est important, de faire une défense commune.
Alors, ça veut dire quoi, défense commune ?
De défendre plusieurs personnes dans le même dossier. À partir du moment où il n'y a pas de conflit d'intérêt, ben vous défendez qui vous voulez. Vous
et
pouvez défendre une ou deux.
On vous le reproche, ça c'est parce illégal.
Là, on le fait rentrer dans l'association de malfaiteurs en disant, vous voyez, Maître Garbarini, vous défendez plusieurs personnes, donc vous pouvez asseoir une stratégie de défense. Cette stratégie de défense, elle nous dérange parce que du coup, vous mettez les différentes personnes que vous défendez avec... des paroles communes et en fait une défense commune, mais où est cet interdit? Ouest interdit que Pierre-Paul Jacques.
Il soupçonne d'être super complice de toute la de toute les corse.
Pour lire les choses. Voilà. Donc comme vous êtes corse, si vous êtes ça, et puis vous soupçonne, je pense, plus que ça d'être efficace.
Ça
je pense. C'est ça, parce que ça, vous seriez très mauvais, il ne viendrait pas vous ennuyer.
Ah non, ça c'est sûr que là, il me laisserait
si
d'ailleurs. Il me demanderait d'en défendre plus.
Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Santoni, vous étiez venu ici pour en parler, vous l'avez sorti de prison.
Deux fois. Et je lui ai fait tout enlever.
C'est ça, moi, qui me paraît un peu
important. Il avait un bracelet électronique disparu et un cautionnement disparu aux trois quarts.
Donc la justice, les magistrats, ils vous rattrapent toujours.
Ben surtout là, c'est pour ça que je parlais de fragilisation, parce que c'est de la défense pénale.
Mais je ne donne pas mon sentiment, évidemment, sur un sujet, je n'ai que votre version. Bien évidemment, donc je suis prudent. Juste un mot.
Avec le banditisme corse.
Ben quel titre ? Vous croyez que j'ai besoin ? Je suis 32 ans. Ça fait 32 ans que je suis à Paris. Non, mais je vais vous répondre. Ça fait 32 ans que je suis à Paris.
C'est le principe d'un avocat pénaliste.
Moi, j'ai un cabinet, d'ailleurs, qui fonctionne à hauteur de 95% avec une clientèle parisienne. Et entre guillemets, étrangère européenne. D'accord. Je n'ai pas besoin des dossiers corses pour vivre. Oui. Pour que les choses soient très claires.
Voilà. Et si vous le faites.
Et en plus, si je gagne ma vie avec les dossiers corses, ce n'est pas un crime parce que l'argent, je ne le vole pas. Oui. À 6h30 du matin, je suis au cabinet, comme nous tous, je travaille. Et qui dit on travaille.
C'est plus tard. Bon, c'est 10h, lui.
Je travaille, ça mérite des honoraires. Mes honoraires, ils sont payés. Et je les soumis à l'impôt. Et ce qui est normal parce que je suis le contribuable.
J'ai le droit à une question indiscrète. J'ai aucun. Comment dire, je ne sais pas du tout ce que paye, par exemple, M. Santoni en espèces pour assurer sa défense. Je n'ai aucune idée de cela.
C'est un secret professionnel.
Oui,
ça fait partie du secret professionnel.
Oui, bien sûr, mais je n'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il vous donne 50 000, 100 000, 200 000. Je n'en sais absolument rien.
Je vous explique parce qu'il y a une définition. L'honoraire est calculé selon la complexité du dossier, le statut de l'avocat, d'accord, et les facultés contributives du client. C'est les trois définitions.
C'est quoi le statut ?
Les conditions sont réunies pour être bien payé.
C'est quoi le statut ?
J'avais appris, par exemple,
la notoriété.
La notoriété.
Voilà.
Tout. Donc, c'est ça me paraît...
Allez, on avance. Éric Zemmour, parce qu'on n'a pas fini, je voudrais qu'on l'écoute alors sur Reconquête, puisqu'il continue Reconquête, ce qui va vous faire plaisir. Eh oui, parce qu'on va retrouver Georges Fenech. Là, vous êtes un petit peu dans ce quart d'heure.
Qu'il veut reconquérir, mais bon.
Oui. Écoutons.
Ça... Je continue, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, je vais marcher sur mes deux jambes. L'un, la politique active, les élections, etc. Deux, l'analyse, c'est-à-dire la réflexion, c'est-à-dire le combat culturel, le combat idéologique. Moi, je veux mener les deux combats.
Bon, je ne sais pas comment il va le faire politiquement. Il pouvait le faire d'ailleurs en étant sur les plateaux de télévision, la deuxième. Mais le premier... en revanche, il a voulu, et ça sera la dernière fois qu'on l'écoutera ce matin, le cordon sanitaire qui a explosé. Et ça vous concerne peut-être.
Personne n'a vu venir le fait que le cordon sanitaire, vous savez ce fameux cordon sanitaire qui faisait que depuis 30 ans, la droite s'interdisait de voter pour le Rassemblement National, la droite LR, ce qu'on appelait le RPR et l'UDF auparavant, les Chiraciens, vous voyez tous ces gens-là, et qu'aujourd'hui, ce cordon sanitaire a en partie sauté. Pas complètement, mais il a en partie sauté. Et on le voit. Alors, d'abord, je veux dire que je m'en réjouis. Parce que vous savez bien, vous m'avez écouté pendant 2 ans, vous savez bien que depuis 20 ans, c'est mon combat. Depuis 20 ans, je dis que ce cordon sanitaire est inopérant, qu'il doit sauter, que c'est le peuple de droite qui doit se rassembler, que ceux qui défendent la France doivent se rassembler, et qu'il est ridicule d'ostraciser comme ça, de diaboliser le Rassemblement National et tous les gens qui défendent les idées identitaires de lutte contre l'immigration et l'islamisation de la France. Donc je m'en réjouis, évidemment.
Georges Fenech, vous n'êtes pas sur cette ligne. Vous, dans une élection législative entre un candidat macroniste et un candidat du Rassemblement national, vous votez pour le candidat macroniste.
Oui.
Oui.
Oui, je suis clair, moi.
Oui, c'est ça.
Oui. Ça vous surprend ?
Non, ça ne me surprend pas, mais ce qui ne me surprend pas, c'est qu'il n'y ait que 65 députés d'Europe.
Le Rassemblement national n'a pas le monopole du patriotisme
ou mais de la France. Pourquoi vous vous sentez plus proche d'Emmanuel Macron, par exemple, que du Rassemblement national?
Parce que, d'abord, c'est toute une histoire. Et je vous rappelle que le Front national s'est construit
72.
Contre la droite et contre le gaullisme.
72.
Après, il a évolué, c'est ce que je disais. Le Rassemblement national n'est pas le Front national de Jean-Marie Le Pen.
Oui, mais bon, le Parti communiste d'aujourd'hui, c'est pas le Parti communiste de Staline. Bon, vous pourriez dire, effectivement, aujourd'hui...
Et vous avez raison.
Au PC aujourd'hui. Aujourd'hui, vous trouvez que les idées que vous défendez sont plus proches d'Emmanuel Macron, par exemple, que de Marine Le Pen.
Oui, parce que je suis plus européen. Je suis très attaché à l'idée européenne. Je ne crois pas que ce soit le cas du Rassemblement national, qui est souverainiste. Vous voyez,
je ne pense pas
qu'il faille aller vers une immigration zéro. Je pense que c'est absurde et ça n'est pas souhaitable. Donc je suis pour une immigration contrôlée. Vous voyez, il y a tellement de choses importantes qui nous séparent.
Bon. Et vos électeurs, à votre avis, sont sur votre ligne?
Moi, je n'ai plus d'électeurs, Pascal. Oui. Je suis chez vous.
On regarde les reports de voix dans les circonscriptions. On constate que l'électorat de droite est très divisé. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui fera comme toi, qui votera Macron, et puis une partie...
Ça, monsieur Fenech,
c'est vrai, oui.
Oh, pardon, bon. Oui. Monsieur Fenech, excusez-moi. Donc l'électorat de droite...
On se connaît bien avec Fenech.
L'électorat de droite est...
Il est divisé. Bon, très rapidement, dans l'actualité, je trouvais... Alors je voulais qu'on fasse un long chapitre sur cette écriture inclusive. Alors Gérard va dire c'est une de mes marottes, mais ça me rend tellement triste au fond. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis tellement triste que personne ne monte au créneau. Demain, le conseil d'administration de l'université de Clermont-Auvergne devra se prononcer à propos de l'adoption d'une charte pour une communication inclusive à l'UCA, l'université Clermont-Auvergne, qui porte donc sur la modification des moyens de communication interne à l'université. Cette charte a pour objet d'imposer l'usage de l'écriture inclusive à l'université, impliquant l'introduction du point médian et de la barre oblique contrevenant à l'avis de l'Académie française. L'université poursuit un objectif de non-choix entre le féminin et le masculin et, et de non-catégorisation des personnes selon leur genre.
Bon. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de M. Papendaï là-dessus.
Mais c'est l'avis de Jean-Michel Blanquer, c'est l'avis d'Emmanuel Macron, il a été très clair, c'est l'avis aussi de l'Académie française. Mais personne ne se bat là-dessus. C'est-à-dire que c'est même pas... ça devrait être la une des journaux. Gérard, vous... Mais...
Non, vous connaissez ma position, Gérard.
C'est la langue, c'est notre langue.
Clair, je suis contre l'écriture inclusive.
Mais je sais.
Je trouve que c'est une folie, je trouve que ça...
Mais personne ne se bat.
Inopérant, ça complique les choses. Là où je suis un tout petit peu moins virulent que vous, c'est que je pense qu'il y a tellement d'autres questions, il y a tellement de sujets que je ne mettrai pas l'écriture inclusive comme priorité, comme chose qui me scandalise le plus.
Mais je suis totalement d'accord avec vous sur l'écriture inclusive.
C'est un sujet important, c'est un sujet que je... Voilà, oui. Je ne peux pas dire plus.
À la limite, je serais d'accord avec toi si l'écriture inclusive n'était utilisée que par des militants de partis politiques. Ils font ce qu'ils veulent. Mais là, que ça soit utilisé dans des institutions du savoir et de la connaissance, c'est une aberration.
Le niveau d'orthographe des écoliers, voilà, des élèves, etc., qui est déjà quand même assez grave et où le niveau est assez faible, voire bas. En plus, aller chercher une écriture inclusive qui, à moi, je suis contre à 2000%, c'est un non-sens.
Mais évidemment, et d'ailleurs, l'UNI est le seul à se battre. Cet objectif clair de faire disparaître le masculin et le féminin est une ultime preuve de la volonté déconstructiviste de l'idéologie wokiste. La charte à l'université incite à éviter de représenter les femmes dans des positions statiques, rêveuses ou passives, et les hommes dans des attitudes concentrées, dynamiques et assurées. C'est la charte. La charte demande également d'éviter de représenter des rapports de domination homme-femme, ne pas représenter un homme qui montre une femme et une femme qui regarde, un homme debout et une femme assise, un homme au premier plan et une femme au second. On en est là.
C'est déjà autre chose.
La charte de l'université.
Mais je veux rien du tout parce que je dis que je suis contre. Mais là, vous n'avez pas recommencé.
Je suis contre
et en plus je trouve que ce qui m'étonne, c'est ces gens qui. Pour parler clair, ça vient d'une partie de la gauche, d'une certaine gauche, alors que c'est le type même de mesure qui est d'un élitisme antisocial, parce que ces gens... ça complique encore, et notamment pour les gens qui peuvent avoir le plus de difficultés avec le maniement de la langue française, qui est déjà une langue extrêmement compliquée, ça la complique encore. C'est de la folie. Ces gens
instruisent
nos enfants. Vous vous rendez compte?
Non, là, c'est l'université, donc c'est pas vraiment nos enfants. Ils sont quand même.
Mais ils ont 18 ans. Ils ont 18 ans. Mais ils ont 18 ans. Ils ont 18 ans. Pas Pendiaï, qui est Bernardo depuis le début, qu'il a été nommé. Il parle pas. Donc, il dit pas, il parle. Mais non, mais c'est Bernardo.
Oui, on aimerait bien l'entendre.
Bon, j'aimerais l'entendre sur des sujets comme ça. L'ancienne ministre, Madame Vidal, des universités. Mais elle a laissé tout faire. Mais non, comment
elle était contre, elle était contre.
Mais elle est intervenue à l'IEP de Grenoble. On avait reçu ici à l'IEP de Grenoble ce qui se passait avec ce professeur. Enfin, c'est incroyable alors, ce qui se passe dans les universités.
Simplement, il faut savoir que l'université, c'est quand même un sujet un peu particulier. Oui. Chacun sait qu'il y a une certaine autonomie des universités, qui a été concrétisée par la loi, loi de Mme Pécresse.
C'était Mme Pécresse.
Et donc, voilà. Et donc, c'est difficile pour un État d'intervenir sur les universités. Bon, sur chacune des universités.
Je trouve ça. C'est tellement la démission, en fait. C'est tellement la démission.
Vous êtes décentralisateur ou vous ne l'êtes pas?
Vous voulez que chacun écrive comme il veut?
Non, je
veux. Non, mais c'est voilà. Et puis, il n'y a plus de langue française. On a mis des siècles à avoir une langue française. Et il y a des jeunes gens qui veulent la déconstruire. Et vous vous dites rien, vous êtes sur votre chaise. Audrey Berthaud, il est 10h30. Mais tout le monde est contre. Sauf quelques illuminés que tu retrouves dans des universités. Voilà, tout le monde est contre. Bien évidemment,
Audrey Berthaud, universitaire.
25 départements placés en vigilance orange aux orages dans le nord-est du pays. Une nouvelle salve d'orages violents est attendue à la mi-journée sur le centre-est et qui va se propager vers le nord-est dans l'après-midi. La ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, sera la candidate de la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale mardi prochain. Ce serait une première en France qu'une femme accède à la fonction de présidente de l'Assemblée. Enfin, Vienne retrouve sa première place au classement des villes les plus agréables du monde, comme en 2018 et en 2019. Les experts ont récompensé la stabilité de Vienne, son offre éducative et médicale, ainsi que la qualité de ses infrastructures.
Audrey, bonne fête.
Merci, Pascal. J'ai cru que vous alliez oublier.
Ah ben non, c'est la Saint-Audrey. Et alors, vous savez qui a 50 ans aujourd'hui?
Zidane.
Exactement. Zidane. Est-ce que Zidane est le plus grand joueur de tous les temps de football?
Maradona, le plus grand joueur.
Non, français.
Ah, français, oui.
Maradona, oui. Ça, c'est une bonne question.
Avec Platini, ça se discute.
Platini.
Copa.
C'est terminé.
Mbappé,
il commence. Bon, on salue d'ailleurs tout le football corse. Claude Papy, bien évidemment, en tête. Je veux dire, Charles Orlanducci.
Paul Marchionni.
Paul, bien sûr.
Qui a soulevé la
grande équipe de 1978. Caz.
Fanfan Félix, le 9.
Bien évidemment, qui avait marqué contre Carl Zeiss Siena. Plusieurs buts. On est en retard. Justine Kesser-Kera a été avec nous ce matin. Audrey Missirac a été à la réalisation. Jean-François Couvlaire a été au son. Agathe Bourdeau était à la vision. Marine Lançon et Justine Kesser-Kera a été avec nous. Et Jean-Marc Morandini dans une seconde.
Hey marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast, the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.